France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
À la radio, nous passons notre temps à donner l'heure. Les tranches d'informations n'ont d'ailleurs plus de titres, elles ont des horaires. Je présente le 18-20, Jérôme Cadet le 13-14, et c'est pour ça que vous serez en retard pendant plusieurs matins, peut-être dès la saison prochaine, avec la matinale qui bouge, vous le savez un tout petit peu, parce que le repère temporel, c'est une voix. Quand vous entendez Claude Askolovitch, vous savez que c'est l'heure de sortir, emmener les enfants à l'école, par exemple. Nous nous replaçons tous et tout le temps dans un cadre temporel. Notre repère majeur dans la vie, c'est le temps. Nous ne suivons pas nos rythmes, nous regardons l'heure. La preuve, c'est que nous vivons en décalage avec le soleil et puis on n'a plus le temps, pas le temps, on fera ça si on a le temps, quand on aura le temps, tu pars combien de temps, tu me donnes un peu de ton temps, etc. C'est exactement ce que Christian Clot aime à casser, le temps. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse à l'entrée d'une grotte, littéralement, tous ces repères temporels? Une première expérience avait permis de tirer de premières conclusions après 15 volontaires enfermés 40 jours. Cette fois-ci, en plus des scientifiques, 10 artistes sont descendus afin de lier le rapport au temps à la création artistique. Ils sont sortis le 27 juin dernier, donc tout récemment. Les expériences s'appellent Deep Time et ceux qui ont participé sont désormais des Deep Timers. Et ça n'est pas seulement le temps qui intéresse Christian Clot, il travaille aussi sur notre adaptation à tous les points de vue. Il aime plonger ses cobayes, tous volontaires, je vous rassure, et lui-même aussi d'ailleurs, dans des situations réelles de vie extrême et regarder leurs réactions psychologiques, cognitives, sociales, face à des environnements qui peut-être un jour seront les nôtres. Chaleur tropicale, froid polaire, aridité désertique, ces recherches nous parlent de nos comportements individuels, nos comportements collectifs, nos stratégies d'adaptation. Ça n'est pas un jeu, c'est une vision du futur. Il a même enfourné littéralement des volontaires dans un camion à 50 degrés. Nous avons expérimenté un pic de chaleur ces derniers jours, nous n'avons sans doute rien vu. Si c'est notre futur, sachons ce que ça veut dire. C'est à ça que servent ces expériences que nous partageons avec vous ce soir grâce à vos questions. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on va commencer avec une question WhatsApp, une fois n'est pas coutume, c'est celle de Jeanne ce soir, et qui nous dit ceci. N'y a-t-il pas un biais dans l'interprétation de ce genre de résultats et d'expériences extrêmes, nous dit-elle, parce que chaque participant sait qu'il sortira et donc recollera à sa vie, et puisque les participants savent à quoi ils s'engagent, ils se mettent aussi en condition pour y parvenir, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Christian Clot qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes explorateur, vous êtes chercheur, directeur de la Human Adaptation Institute, c'est vous qui, j'allais dire, qui inventez toutes ces expériences et qui y participez aussi. Suzanne Henry est là avec nous aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chorégraphe, vous êtes danseuse au Conservatoire de Paris et vous avez participé à Deep Time 2. Vous allez nous raconter ce que vous en avez tiré, ce que vous allez en faire aussi dans votre travail. Et Sophie Bécherel, bien sûr, est là. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Journaliste scientifique à France Inter, c'est vous. J'aimerais bien, Christian Clot, juste en un mot, qu'on explique à notre auditrice comment les choses se passent. Est-ce que, en effet, quand vous analysez les résultats, au fond, vous savez qu'il y a une part de biais, puisque toute personne qui descend dans la grotte ou qui expérimente avec vous le fait volontairement et donc, consciemment ou pas, se prépare à cette expérience-là.
Oui, c'est évident qu'en science, on a des sujets volontaires, donc ils savent ce qui va leur arriver. C'est
nécessaire. J'ai envie de dire heureusement d'ailleurs, hein, Christian.
Heureusement, évidemment. Et donc, il y a forcément ce petit biais, mais qui est quand même moins grand que lorsqu'on fait ça dans un laboratoire où finalement c'est beaucoup plus court. Donc, on prend ça en compte évidemment dans nos résultats, mais vous savez, quand on passe 40 jours dans un territoire, on oublie un peu le fait que ça va se terminer. C'est une projection qui est très difficile pour l'humain.
Je me demandais d'ailleurs, et on va demander à Suzanne dans un petit instant, combien de temps il faut pour rentrer dans un autre univers, hein, en fait. Est-ce que c'est presque instantané? Là, c'est intéressant parce que la première expérience faisait 40 jours, la deuxième expérience était plus courte. Est-ce qu'on rentre quasi instantanément? Il faut du temps pour s'installer dans un univers qui nous est totalement étranger, finalement?
Oui, il faut du temps. L'adaptation, ça prend du temps. Ça prend au moins plusieurs semaines, plusieurs jours en tout cas. Et c'est paradoxal, mais c'est encore plus difficile de se réadapter au monde d'où on vient, le monde qu'on connaît.
Mmh. Suzanne Henry là-dessus, pardon Christian Clot, je pensais que vous aviez une phrase à ajouter. Suzanne Henry, c'est marrant parce que c'est effectivement la première question que j'avais envie de vous poser. C'est pas tellement le pendant, on y viendra, mais c'est surtout l'après. Est-ce que la remontée est difficile? Là, ça fait combien? C'était le 27 juin, donc ça fait un peu plus d'une semaine.
Un peu moins d'une semaine qu'on est sorti.
Vous avez atterri ou pas?
Je pense que c'est très particulier en fait de sortir, parce qu'il y a à la fois la redécouverte en fait du monde extérieur, les sens, la vue, l'odorat et tout ça. Je pense que je suis toujours en train d'analyser en fait ce qui vient de se passer. Et je pense que ça me mettra encore plusieurs mois à comprendre vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur, ce que j'ai pu ressentir. Mais c'est sûr que c'est une expérience extrêmement marquante.
Est-ce que le monde vous agresse dès que vous sortez, en fait? Alors, je pense au bruit, notamment, peut-être aux sollicitations à l'extérieur.
Alors moi, je dirais ce qui m'a marqué le plus, c'est en fait l'arrivée à la ville. Revenir à Paris et en fait se rendre compte que tout le monde passe à côté de tout le monde sans se regarder, sans même s'adresser un regard. Et ça, je trouve que c'est un peu violent.
Est-ce que vous avez récupéré votre téléphone tout de suite, par exemple, typiquement?
Il nous a fallu plusieurs heures pour déjà décharger tout ce qui était dans la grotte, revenir au monde extérieur, retrouver ça pour certains, leurs proches, les médias aussi qui nous accueillaient à l'extérieur. Et puis après, retrouver le téléphone. Et puis, moi, je me suis demandé, mais comment on utilise le téléphone?
Ah, c'est pas vrai. Dites-moi que vous aviez oublié votre mot de passe.
Non, pas, quand même pas. Mais c'est vrai que ça faisait un sacré effet de... Puis tout d'un coup, recevoir tous ces mails, ces messages... Et... pas forcément très envie de revenir à ce monde-là, en fait.
Christian Clos, est-ce que... je me demandais si l'expérience de la sortie n'était pas effectivement tout aussi intéressante que l'expérience de la vie dans un univers extrême. Là, en l'occurrence, il s'agit d'enfermement donc dans une grotte. Et si vos sujets, vos volontaires, vous les suiviez derrière, en fait, parce que cette réadaptation, et peut-être aussi comment on vit après, a aussi un vrai sens.
Oui, évidemment, une expérience comme celle-ci, comme vient de le dire Suzanne, c'est très marquant et on n'en sort pas totalement indemne, alors de manière positive hein, la plupart du temps, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Et nous, on va continuer de suivre chacune et chacun des personnes qui étaient dans cette grotte avec nous pour voir effectivement leur évolution. Donc on va envoyer quelques questionnaires supplémentaires, on va continuer de parler avec tout le monde. Et je crois que c'est une expérience qui ramène aussi, et Suzanne a très bien dit, à cette envie de faire commun, de faire communauté, de coopérer, et ce qu'on a peut-être un tout petit peu perdu dans nos sociétés actuelles qui restent un peu passives par rapport à l'autre parfois.
Sophie ?
Deep Time 2, c'était des artistes. Deep Time 1, c'était des volontaires plus diversifiés. Évidemment, il va falloir du temps pour éplucher les données que vous avez recueillies et rédiger les articles scientifiques, mais est-ce que d'ores et déjà, il y a une différence ?
Oui, une chose qu'on n'avait pas forcément bien posée dans nos hypothèses scientifiques d'ailleurs et qui est extrêmement intéressante, c'est que c'est la première fois qu'une expérience hors du temps se fait avec un travail à réaliser, avec un but précis, en l'occurrence réaliser quelque part du travail artistique. Et c'est vrai qu'on n'avait pas anticipé à quel point ça pouvait être coordinateur de l'équipe et à quel point toute l'équipe allait être portée par cette envie, qu'on soit artiste ou non artiste. Tout le monde s'est mis au diapason de cette envie de créer, et je crois que ça a été un très fort synchronisateur, beaucoup plus en tout cas que ce qu'on aurait pu anticiper à la base.
Et là-dessus, Suzanne Henry, en termes de création, vous êtes danseuse en plus, donc c'est pas le plus évident à l'intérieur. Par ailleurs, vous avez décrit la grotte, il paraît que c'est sublime. C'est très grand, enfin, y a même un lac intérieur, etc. D'abord, est-ce que vous avez dansé ?
Alors oui, je me suis prêtée au jeu à cet objectif de la création. Comment, et de manière générale, enfin moi, ma pratique, elle se situe autour de mon corps. Donc comment j'éprouve mon corps
aussi. Vous êtes dans ce solo, donc
je danse en fait
le plus souvent
là en ce moment solitaire.
Ouais.
Mais pour moi, ce qui était intéressant de voir, c'est comment je pouvais éprouver mon corps en fait de manière générale à l'intérieur de la grotte et me connecter à mes sensations. Donc éprouver la marche, éprouver l'effort aussi dans un milieu qui est complètement différent, le sol est complètement différent, donc comment en fait, il y avait beaucoup de questionnements en fait avant, comment j'allais m'adapter à ce nouveau milieu, et aussi une forme de lâcher prise, de dire je vais observer aussi ce qui se passe en temps réel, au moment présent, avec ma pratique.
Je vais revenir à ce que vous dites, Suzanne, mais Christian Clos, ce que je trouve intéressant là, c'est chacun en fait, là en l'occurrence, et c'est vrai que Suzanne est danseuse, mais parle de son corps, donc pas tant de ce qu'il crée, mais de ce qu'il ressent dans le corps qui est leur propre instrument finalement à ces artistes-là.
Oui, absolument. Je crois que chaque artiste et chaque personne dans la grotte a un ressenti très profond à la fois de l'environnement qui est à 10 degrés sans pour son humidité, mais qui est aussi absolument splendide, qui est riche d'émerveillement. Et je crois que chacune et chacun cherche d'abord dans son corps, avant même de chercher dans son cerveau, finalement, ce que ça veut dire. Et je dois dire que moi, j'ai été extrêmement impressionné, vraiment impressionné par tous ces artistes, par toutes ces personnes qui se sont mis à l'œuvre dans un contexte qui est tellement différent et à la fois avec une sorte d'avidité, de plaisir. Et je tiens à dire, et ce sera certainement dans le film qui va être réalisé par la suite, j'ai eu ce privilège énorme d'assister à cette créativité et de voir par exemple Suzanne, on est parti, on est descendu, à un moment donné on descend au deuxième niveau, donc il y a un premier rappel de 40 mètres, puis ensuite il y a 30 mètres de rappel diversifié, on prend un bateau, on avance un bout, et tout d'un coup il y a un espace...
Ah oui, c'est 20 milieux sous les mers votre histoire.
C'est 20 milieux sous les mers, ouais. Et tout d'un coup il y a cet espace plat avec du sable au sol, et Suzanne qui se met à danser à cet endroit, on est trois avec elle, et on a ce privilège unique d'être les seuls spectateurs de ce moment-là, et c'est quelque chose que je me souviendrai toute ma vie.
Parce que moi ce qui me fascine là-dedans, Suzanne, c'est qu'effectivement il y a le corps et le cerveau, en fait, mais quand on est un artiste, on se nourrit de l'extérieur, on ne peut pas se nourrir que de soi-même, en fait, on se nourrit de l'extérieur, on se nourrit de ce que le monde extérieur nous renvoie, on se nourrit de ce que l'époque nous envoie, on se nourrit de tout ça. Donc on peut pas simplement se nourrir de cet isolement-là, en fait. Donc qu'est-ce que vous en faites après, réellement ? Comment vous l'incluez dans quelque chose ? À moins qu'un artiste puisse aussi justement faire abstraction de son cerveau, et que c'est intéressant pour vous de faire abstraction du cerveau à un moment pour n'être focalisé que sur le corps. Je sais pas, en fait.
En fait, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'au début, je pense qu'on est tous et toutes partis avec des objectifs, des choses à lire, des choses à travailler. Et je pense pour une grande majorité en fait, des artistes qui sont descendus dans la grotte, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on était vraiment nourri par ces connexions humaines, par ces rencontres qui vont au-delà en fait du genre, de l'âge, du milieu social, qu'on rencontre en fait l'essence d'une personne. Et ça, en fait, c'est extrêmement nourrissant en tant qu'artiste.
Juste, pardon Sophie, j'ai vu que vous vouliez intervenir.
Oui, parce que d'autres artistes disent cela, qu'ils se sont finalement nourris du travail des autres, et visiblement ils ont constitué un groupe, en tout cas socialement, très très fort.
Et alors, je me permets, excusez-moi, d'intervenir là-dessus, parce que c'est fondamental ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, cet isolement sensoriel qui est la grotte, constitue justement un formidable endroit de création pour une seule raison. C'est que tous les artistes qui ont postulé à cette résidence nous l'ont dit, ils sont aussi dans le monde actuel sursaturés d'informations, de données, de bruit, de sons, de mails, de réseaux sociaux. Et là, soudainement, on se plonge là-dedans. Et ce qu'on avait constaté en 2021, c'est justement que le fait d'être isolé de ce monde parfois un peu trop demandeur d'informations, c'est une créativité renouvelée de par le fait que le cerveau est soudainement libre de pouvoir créer complètement. Et ça a été extraordinaire de le voir cette fois-ci en fonction.
On va aller au standard où Raphaël nous attend. Juste une seconde, Christian Clos, là-dessus. Est-ce que ce lien qui a été créé lors de cette expérience-là, dont parle très bien Suzanne, peut-être la différence avec l'expérience d'avant où c'était des gens qui étaient plus lambda, si je puis dire, en tout cas qui n'avaient pas une vocation artistique marquée, est-ce que ces gens continuent à se voir ? Donc ce lien particulier qui a été créé, il subsiste et il persiste. Et c'est peut-être ce qui va se passer aussi avec le deuxième groupe. Est-ce que au fil du temps ces choses-là se sont étiolées? Est-ce que vous le savez déjà ça ou pas?
Non, clairement ce lien il subsiste de différentes manières, mais il subsiste pour une simple raison déjà, c'est que cette expérience est énormément créatrice à l'intérieur de son cerveau et de soi-même, et que c'est difficile à raconter vraiment aux personnes extérieures qui ne l'ont pas vécu. Du coup, les seules personnes qui peuvent vraiment totalement comprendre ce qu'on a vécu, c'est les autres qui étaient avec nous dans cet espace. Et ça crée quelque chose qui est fondamental. Ce qui a été nouveau en 2025 avec cette équipe qui était composée à moitié d'artistes et de non-artistes, c'est cette envie commune qu'il y a eu de créer et de le faire finalement de plus en plus. Alors bien sûr, chaque artiste a travaillé dans ses œuvres à lui ou à elle, mais néanmoins, il y a eu cette volonté collective. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui était fondamental pour nourrir cette création artistique.
Tout petit Sophie, Raphaël nous
Oui, le fait qu'ils soient tous artistes a fait qu'apparemment, il y a eu moins de désynchronisation. Autant le premier groupe, certains vivaient la nuit, d'autres le jour. Là, visiblement, il y a eu plus de synchronisation.
On avait très envie en fait de passer du temps ensemble, et je pense que c'était ça les nouveaux repères qu'on s'est créés, c'était les connexions humaines qu'on a pu développer.
Voici Raphaël qui nous attend. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors oui, j'avais une question moi plutôt sur les résultats biologiques scientifiques que vous aviez sur est-ce que l'horloge humaine est vraiment différente du cycle naturel de 24 heures de la Terre. Et en d'autres mots, est-ce que Cette expérience permettrait de justifier mes grasses matinées.
Alors, Christian Clos, est-ce qu'on peut justifier les grasses matinées de Raphaël ? Est-ce qu'il peut mettre ça sur un certif pour son employeur ? Ça, c'est la première question. Et deux, effectivement, est-ce que le rythme change immédiatement ? Donc, nos rythmes, en fait, sur les 24 heures d'une journée. D'ailleurs, est-ce que ça a du sens de parler de 24 heures d'une journée lorsqu'on est enfermé dans un endroit sans fenêtre, sans air, sans jour et sans rien ?
Non, alors effectivement, parler de 24 heures ne veut plus rien dire dans ce contexte. Alors évidemment, on n'a pas encore analysé les données de 2025, on a celles de 2021. On a vu une énorme désynchronisation par rapport au rythme classique. Nous, en 2021, on sort à environ au 30e cycle, donc 30 nuits et 30 jours, alors que dehors, il s'en est passé 40. Mm-hmm. Donc on voit bien qu'il y a une immense désynchronisation et que chaque individu avait en plus sa propre synchronicité personnelle. Donc on n'a pas, en tout cas, et je vais me fâcher avec certains spécialistes, mais on n'a absolument pas une synchronisation absolue qui serait réglée sur un 24 heures ou sur un 25 heures comme ça a été supposé. En l'occurrence, en 2025, on a une observation qui va certainement être différente, plus synchrone, plus en lien d'ailleurs avec les 24 heures extérieures. Et on va devoir maintenant creuser scientifiquement ces résultats pour comprendre ce qui s'est passé, mais clairement, on voit que la volonté créatrice a été un synchronisateur très fort.
Alors
pour les grasses matinées, quand même, vous pouvez les justifier parce qu'on a des personnes plutôt du matin, des personnes plutôt du soir. On n'a pas le même rythme horaire à titre individuel. Donc, si la grasse matinée est parce que vous dormez, vous pouvez justifier. Si c'est juste parce que vous aimez rester au lit à regarder des BD, peut-être pas.
Voilà, Raphaël, j'espère que vous avez bien compris ce message. Donc, sortez du lit maintenant, immédiatement. Vous me direz, la matinale va durer jusqu'à 11h à la rentrée, donc vous pourrez rester au lit pendant très longtemps. En termes de temps, Christian Clos, j'ai lu, moi, dans la première expérience, par exemple, que les gens étaient réveillés plus longtemps que ce qu'on pouvait imaginer. En fait, moi, je sais pas, spontanément, je me dis que quand on est dans ce moment-là, on dort plus, en fait, parce qu'on n'est pas obligé de se réveiller. Et en fait, c'est l'inverse, hein, d'après ce que j'ai cru lire.
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est vrai que les journées et les nuits étaient très différentes. On a des personnes qui sont restées réveillées 50, 55 heures, 60 heures, et qui, pour certaines, ont dormi jusqu'à 30 heures de suite. Donc, on avait des rythmes très différents.
30 heures de suite ?
Voilà.
Ah oui, ils sont arrivés fatigués quand même.
Alors, pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on reste réveillé 60 heures, par exemple, ou 50 heures, forcément, on a besoin peut-être de plus de sommeil qui suit. Ce qu'on a pu constater, c'est que c'est pas tellement le nombre d'heures qui compte que le pourcentage entre le temps de veille et le temps de sommeil. Et quelque part, quand ce pourcentage est respecté, et ça, c'est quelque chose que fait le corps assez naturellement, alors il n'y a aucun problème, finalement, de durée. Et on n'a pas dormi plus ou moins dans la grotte, on a dormi simplement différemment.
Est-ce que vous dites, Suzanne, que vous aviez tous envie d'être ensemble et vous avez très vite compris en fait qu'il y avait ces connexions. Mais du coup, j'en viens à me demander si notre temps de sommeil est proportionnel à au fait qu'on est bien dans un endroit, donc on n'y pense pas à dormir en fait, ou en tout cas physiologiquement, ça se passe différemment parce qu'on est bien à ce moment-là. Est-ce qu'à un moment, en discutant avec tout le monde, vous êtes tombé de sommeil par exemple ? Est-ce que ça arrive ça ? Ou quelqu'un dans le groupe ?
Je me souviens pas que ce soit arrivé, en tout cas pendant moi, de mon vécu. Mais c'est sûr que quand le groupe va se coucher et qu'on est les derniers, on n'a pas forcément envie de rester seul dans le lieu de vie, dans la grotte qui est magnifique, mais qui est quand même très impressionnante. Donc il y avait un peu ce mouvement, on va dire, social, dire bah, s'il y en a qui se réveillent, ou si on entend aussi qu'il y a... moi, j'avais en tout cas cette appréhension de me dire, si je me réveille et que je suis seule, qu'est-ce qui se passe ? Et j'avais besoin, en tout cas, d'être avec les autres, de partager des moments de vie.
Fallait les réveiller.
On n'avait pas le droit.
Ah, c'est interdit. Ouais. Ah, c'est interdit dans l'expérience, c'est génial.
Christian Clos, la grotte est à 10 degrés et 100% d'humidité. Dans quelle mesure les conditions physiques, finalement, de l'environnement changent la physiologie du corps ou le rythme le rythme, et notamment parce que vous avez emmené des gens dans des environnements très chauds, très froids,
très humides.
Tout à fait. Il y a une grosse différence qui est absolument intéressante à observer, c'est que contrairement à d'autres milieux, là on ne réfléchit pas à comment on s'habille. C'est-à-dire que tous les jours on sait qu'on aura exactement la même température et la même humidité. Du coup on trouve son habitude, et une fois qu'on a son habitude, on n'en change plus. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que finalement ça fait encore une charge mentale de moins à réfléchir. Donc toutes ces charges mentales qu'on enlève, celle du téléphone, celle des écrans, celle du bruit extérieur, et puis même celle-ci de comment est-ce que je m'habille le matin, disparaissent. Et ça c'est une libération cognitive extraordinaire. Et vraiment, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand on arrive à libérer un peu le cerveau des charges mentales, on se sent mieux. Et c'est vraiment ce qu'on a observé et en 2021 et en 2025.
La charge mentale, moi je trouve ça génial en fait. Ça, effectivement, quand on se dépouille littéralement, de 1000 gestes qu'on fait le matin ou quand on rentre chez soi et qu'on n'a plus besoin de faire. Est-ce que là aussi, c'est vraiment une question bête, Suzanne, là, depuis une semaine que vous êtes rentrée, je ne sais pas, est-ce que vraiment vous êtes habillée très différemment chaque jour, ou est-ce que cette espèce de réflexe-là, de s'enlever cette charge mentale, vous l'avez gardée ou pas ?
Moi, j'ai ma pensée que c'est bien d'avoir un peu de tout dans la vie, de pouvoir jouer le jeu de l'apparence, de s'habiller, et en même temps, en fait, d'être bien avec soi-même, et de pouvoir ne pas changer de tenue pendant plusieurs jours si on a envie, et en fait, d'être libre aussi, de pouvoir le faire ou non. Mais c'est sûr qu'il y a un énorme soulagement. Enfin, moi, la première sensation que j'ai eue, les premières heures où on s'est installé dans la grotte, en fait, c'est de se poser sur le lieu de vie, d'être là avec les gens, d'écouter ce qu'ils ont à dire ou de regarder ce qu'il y a autour de moi. Et je me suis sentie vraiment, mais libre.
Comment ça commence, les conversations ? Est-ce que chacun se regarde ? Vous avez posé vos affaires ? Vous êtes en rond ? Bonjour, je m'appelle Suzanne, je suis chorégraphe et danseuse. C'est comme ça que ça commence ?
On avait eu quelques visios, en fait, avant, où on avait l'occasion d'échanger, savoir un peu qui fait quoi, qui habite où, etc. Et puis, il y a aussi les quelques jours avant, en fait, de rentrer, où... c'était à la liberté, enfin, chacun a ses envies, en fait, de pouvoir venir aider, en fait, parce qu'il y a beaucoup de matériel qu'il faut installer dans la grotte. Donc là, c'était déjà un premier moment de rencontre.
Parce que je m'interroge sur le qui fait quoi, en fait. Quand on est dans un autre univers que notre univers quotidien, en vacances par exemple, puisque c'est bientôt les vacances pour beaucoup de gens, on rencontre des gens en vacances, la première chose, c'est pas forcément qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait, puisqu'on est dans un autre contexte. Est-ce que là, et précisément parce que vous êtes tous artistes, vous arrivez et vous mettez sur la table, si je puis dire, activité artistique, vous êtes, quelle est votre activité? Votre activité artistique, pardon.
Je pense que ça commence un peu comme dans toutes les rencontres de la vie, de qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu habites, quels sont tes centres d'intérêt, quel est ton travail, quel est ton axe de travail. Et puis après, en fait, je pense qu'on se sent très vulnérable, en fait, d'être ici, puisque, je sais pas, on est dans un milieu, en fait, qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et donc, on a très vite accès, en fait, à l'essence, en fait, de qui sont les gens.
Compétences artistiques, c'était ça le mot que je cherchais vainement et qui ne m'est pas venu. Voici Victor, qui est avec nous. Bonsoir, Victor.
Bonsoir.
On vous écoute ? On t'écoute.
Alors, je me demandais, qu'est-ce que vous faites pendant 2 semaines dans le noir complet ?
Qu'est-ce que vous faites pendant 2 semaines dans le noir complet ? Est-ce que vous êtes dans le noir complet, Suzanne Henry ?
Alors, il y a le lieu de vie, où il y a en fait une lumière commune qu'on peut allumer à partir de 5 personnes, enfin quand 5 personnes sont dans cet espace de vie et avec l'accord de tout le monde. Et puis, il y a aussi quelques éclairages en fait, qui ont été disposés en fait, pour les visites, parce que cette grotte peut être visitée.
Ah bon ?
Ouais.
Il y a eu de la visite ?
Non, il n'y a pas de visite pendant qu'on y est. Mais du coup, il y a quelques éclairages. Mais sinon, en fait, il y a aussi la découverte du coup, de ce noir complet, qui est une sensation qui est vraiment très particulière. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 semaines ? On parle, on aide aussi aux tâches du quotidien. Donc manger, vider les toilettes qui sont des toilettes sèches. Et puis aussi, il y a toute une partie d'exploration de la grotte qui est... Je pense que c'était une découverte en fait pour tout le monde de ce milieu naturel.
Est-ce qu'on voit, Christian Clos, ça j'imagine que c'est évidemment le boulot des scientifiques et le vôtre aussi, on pressent tout de suite et on voit qui est très à l'aise, qui est en train d'embrasser l'expérience, qui est en train de mal la vivre, quitte à lui taper sur l'épaule en lui disant il faut remonter. Est-ce qu'on le voit ça ? Est-ce que c'est arrivé ? Pas forcément dans cette expérience-là, peut-être dans la précédente où les gens étaient plus nombreux ou pas ?
Alors oui, on le voit. On voit des personnes qui sont ce qu'on appelle les adaptables presque immédiats. C'est-à-dire que pour s'adapter, il y a une chose fondamentale initiale, c'est qu'il faut accepter la situation dans laquelle on est. Et on voit assez rapidement des personnes qui cherchent à se raccrocher à une situation qui n'existe plus. Par exemple, en réfléchissant toujours à quelle heure il est dehors, ce qu'ils font. Et celles et ceux qui tout de suite vont dire « Ok, ça c'est ma nouvelle situation, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je construis dessus ?» Et ça, on le voit bien. Et je dois dire que sur cette nouvelle expérience, en 2025, c'est une des premières fois que je vois un groupe aussi rapidement cesser de se poser des questions sur l'ailleurs et se concentrer sur le présent. Et j'ai eu l'impression presque qu'au bout de deux cycles, donc de deux jours à l'extérieur, ce groupe se connaissait depuis des années, était capable de fonctionner ensemble, s'était compris les uns les autres. Et donc, cette équipe-là, en tout cas, s'est adaptée très vite. En 2021, l'équipe était extraordinaire aussi, avait aussi envie de passer du temps ensemble. Mais c'est vrai qu'on avait un peu plus de différence entre des personnalités qui étaient effectivement très adaptées très rapidement et d'autres qui ont mis un peu plus de temps à trouver leur marque.
Sophie,
à quoi peuvent servir les résultats de cette expérience, sachant qu'il existe d'autres milieux particuliers confinés comme les hivernages en Antarctique ou la Station Spatiale Internationale ?
Oui, exactement. Cette expérience, elle va servir à beaucoup de choses. La première, c'est vraiment questionner cette notion de charge mentale qui devient un vrai souci dans le monde d'aujourd'hui et de voir une aussi grande différence au niveau cognitif. Hein, quand on fait des analyses IRM entre l'intérieur de la grotte et les personnes extérieures, on voit qu'on a un vrai sujet là-dessus et on va adresser ce sujet dans le futur. Alors évidemment, pas besoin de se fermer dans une grotte pour réduire sa charge mentale, mais c'est un sujet qu'on doit débattre aujourd'hui en tant que société. Encore que, vous avez raison. La deuxième chose qui va être utile, c'est effectivement des notions de confinement, en tout cas d'isolation sensorielle, comme on appelle ça. Alors, vous avez dit l'Antarctique, il y a les sous-marins, la station internationale, mais on pourrait parler des EHPAD, on pourrait parler de certaines écoles, on pourrait parler de lieux de plus en plus isolés, comme certains villages, qui sont dans des circonstances où l'isolement devient de plus en plus prégnant dans nos sociétés. Et là encore, on va chercher à apporter quelques réponses à ces notions-là. Et puis enfin, tout simplement, ce qu'on observe, c'est le vivre ensemble, comment se crée la coopération et l'utilité de la coopération. Et là, on aura beaucoup de choses à dire dans le futur. Et enfin, sur les rythmes circadiens, je crois qu'on fait d'immenses erreurs sur notamment l'organisation des 3-8 et quelques expériences commencent à montrer qu'on peut faire différemment les 3-8 et que c'est plus apaisant pour les équipes. C'est tout ça qu'on va questionner dans le futur.
Vous avez évoqué, Christian Clos, peut-être les EHPAD ou en tout cas les vies différentes sorties de notre quotidien, de notre routine à tous. Voici Dominique qui nous appelle de Bourgogne. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bah écoutez, voilà, si je peux me permettre, je ne vis pas dans une grotte, mais je suis en retraite depuis 4 ans. Et petit à petit, en écoutant la réaction de ces personnes qui étaient dans la grotte et leurs différentes façons de vivre la temporalité, je ne sais pas si je m'exprime
si,
bien.
Si, on a très bien compris.
Ça m'a rappelé un petit peu ce qui s'est passé, petit à petit, dans mon mental et dans ma manière d'appréhender le temps, et avec l'acceptation qui allait avec également, de pouvoir s'autoriser, de vivre autrement, à un autre rythme, et de pouvoir casser tous les codes sociaux en fait liés à la temporalité. Et c'était très étrange de les entendre, parce que j'avais l'impression d'entendre ce que parfois on a du mal à exprimer ou à expliquer aux gens. Qui nous demande alors comment tu vis ta retraite, ton temps, etc. Et de dire, écoutez, je prends mon café à 13h le matin. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais effectivement, on n'a plus cette même notion du temps à partir du moment où on l'accepte.
Merci.
Et dans une grotte, peut-être que c'est plus facile de l'accepter puisqu'on n'a plus le jour, la nuit. Mmh. Et donc, c'est le corps qui prend le dessus, si j'ose dire. Mmh. Et il y a ça aussi, un petit peu à un moment donné, où je ressens mon corps qui prend le dessus par rapport à tout le reste.
Merci beaucoup, Dominique, pour ces remarques qui sont vraiment intéressantes. Christian Clos, ce que ça dit, c'est que, évidemment, que c'est le quotidien, en fait, qui nous qui pèse sur la charge mentale, qui fait qu'on tape sur nos portables tous les 4 matins juste pour voir quelle heure il est. Et ce que je trouve intéressant dans ce que dit Dominique, ça rejoint effectivement ce que vous disiez précédemment, est-ce que combien de temps on fait référence à la vie d'avant, si je puis dire, et à quel moment on lâche prise et on ne fait plus référence à la vie d'avant. Ça marche dans la grotte, mais ça marche aussi dans la vie de Dominique quand on passe à un autre cap, en fait, après sa vie professionnelle.
Oui, tout à fait. Il y a actuellement dans le monde une accélération des demandes. Ce qu'on appelle les demandes, c'est le nombre de fois où on est sollicité par l'extérieur. Et malheureusement, c'est de plus en plus fréquent, que ce soit les mails, les réseaux sociaux et autres. Et c'est vrai que soudainement, quand on peut être en rupture avec ça, généralement, on se sent vraiment mieux. Mais il faut un temps Parce que passer de cette sursollicitation à une non-sollicitation, ça peut être aussi paniquant, hein, ça peut être stressant, parce que d'un coup, on a l'impression d'être oublié, d'avoir un vide devant soi. Il faut réapprendre à vivre avec son propre temps, réapprendre peut-être à laisser son esprit vagabonder, des choses qui sont extrêmement importantes pour le cerveau. On sait que le cerveau imagine et crée lorsqu'il vagabonde, hein, donc c'est important de le laisser vagabonder. Mais ça prend un peu de temps, et on voit bien que les personnes qui arrivent à la retraite peuvent avoir une sorte de vide intérieur avant d'arriver à se reconstruire. Nous, l'avantage de la grotte, c'est vrai que la grotte est le vide, en quelque sorte, et donc on n'a pas ce passage peut-être un peu long. On comprend tout de suite que l'univers a changé et qu'on doit s'adapter à ce nouvel univers. Mais je recommande vraiment à chacune et chacun de réfléchir à son temps et à la quantité d'informations reçues, et comment est-ce qu'on peut un tout petit peu, sans forcément être à la retraite, commencer à réduire un peu et prendre du temps pour soi.
Chacun peut faire l'expérience de sa grotte, en fait, d'une certaine façon. Voici Louise qui nous appelle de Bourgogne. Bonsoir Louise.
Oui, bonsoir. Pour une fois, je suis sur France Inter, j'ai pas énormément de choses à dire. C'était juste un témoignage par rapport à un livre que j'ai lu. Alors, c'était dans les années 80. C'est une femme qui s'appelait Véronique Le Guen qui a fait cette expérience. C'était 3 mois dans une grotte, au fond du gouffre, ça s'appelait le livre. Et ça m'avait tellement passionnée que je voulais en faire un spectacle qui se serait appelé 100 jours, 100 temps. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le livre, qui est passionnant, que je vous recommande. Donc, au fond du gouffre, 3 mois, mais alors seule, par contre, toute seule. Mais cette femme, donc j'étais étonnée que vous n'en parliez pas du tout, et je crois qu'il y avait déjà eu une émission où on ne parlait pas du tout de ça, parce que cette femme, 6 mois
suicidée.
Après, je crois... Exactement.
Ouais, je m'en souviens. Alors, c'est marrant que vous en parliez parce que j'étais petite, moi, j'avais même pas 10 ans. Je m'en souviens parfaitement bien, Christian Clot.
Oui, alors, on en parle quand même régulièrement. Hein, fait partie des nombreuses expériences de Michel Siffre. Hein, c'est lui qui l'avait incité à rentrer dans cette grotte. Elle a effectivement passé un certain temps seule. Très difficile à évoquer parce qu'on est là dans des circonstances où Michel Siffre avait fait le choix de s'enfermer dans des endroits relativement petits ou avec des pièces uniques où les gens tournaient un peu en rond dans la pièce et qui a malheureusement provoqué beaucoup de difficultés à la sortie, de dépression. Alors pour Véronique Le Guen, son suicide n'est pas forcément attribuable qu'à cette situation-là, mais enfin, ça a certainement aidé à présider à quelque chose de difficile pour elle. Moi, j'ai vraiment fait le choix inverse. Pour moi, la vie, elle se crée lorsqu'on a une capacité d'explorer, de découvrir, et c'est pour ça que la grotte de Lombrive, c'est une grotte énorme où on peut s'y balader. Suzanne l'a décrit, hein. C'est une grotte qui donne envie. Mais effectivement, on doit évidemment jamais oublier nos prédécesseurs et nos prédécesseuses qui ont fait ce genre d'expérience. Elles nous nourrissent, elles nous permettent de mieux réfléchir les nôtres. Ce que nous, on a voulu ajouter aussi au-delà de l'ampleur, c'est la collectivité, parce que je crois justement que l'isolement seul est terrifiant pour l'humain et c'est rare que les choses se passent bien à la sortie. Donc, on est des animaux sociaux, il faut jamais l'oublier, et je crois qu'on doit plutôt réfléchir à comment on recrée société plutôt qu'à comment on crée l'individualité.
Est-ce que vous avez le sentiment, Suzanne Henry, que vous aurez besoin ou vous aurez plaisir surtout à retourner dans votre grotte, en fait, à essayer de retrouver en tout cas ces sensations-là?
Bah, c'est sûr que si demain on me proposait d'y retourner, je dirais oui sans hésiter, parce que... Enfin, c'est même très difficile de raconter ce qui se passe à l'intérieur, de raconter en fait ce qu'on a vu, les liens qu'on tisse avec les gens. Mais en tout cas, voilà, dans 2 semaines, on va tous une partie déjà se retrouver. Et moi,
est-ce que vous n'avez pas peur que ça ne soit pas pareil, en fait?
On peut pas prévoir, on peut pas savoir sans l'avoir vécu. Donc mais là, pour l'instant, en tout cas, il y a l'envie.
Autre lieu, tout le monde sorti, chacun a recollé à sa vie. On essaye de retrouver des moments et des sensations qu'on a déjà vécues. Mais forcément, on peut pas vivre 2 fois les mêmes choses.
Et je pense que c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie. Ce qui compte, c'est de voir comment ça va s'entretenir en fait, dans le futur. Quelles autres expériences on va avoir envie de vivre ensemble dans le futur. Après, on a cette expérience commune qui est très très forte. Il faut voir comment ça évolue dans le temps, mais on peut pas le prédire.
Christian Clot, vous avez mené 2 fois cette expérience, là pour le coup dans une grotte. Vous avez aussi mené, Sophie l'a rappelé, des expériences en Laponie dans le très froid, dans des lieux désertiques avec une très grande chaleur ou une très grande humidité. Emmener des volontaires aussi là-dedans. Je me demandais si dans ces situations-là, qui sont beaucoup plus, qui sont plus extrêmes, où on doit se battre contre les éléments, en fait, si vous voyez au fond les mêmes conclusions, les mêmes entraides, les mêmes liens qui se crée entre les gens, ou est-ce que ce que vous observez, quand les conditions sont plus difficiles et qu'il faut se battre contre ces conditions, est-ce que vous observez que c'est plus difficile pour les gens qui y participent ?
Alors c'est évidemment que nous on travaille dans des certains extrêmes pour pouvoir aller plus vite dans nos observations que ce qu'on pourrait faire dans la vie de tous les jours. Ça fait partie du jeu scientifique. Et évidemment, quand on est dans des territoires un peu plus extrêmes, on voit des humains qui ont peut-être plus de lutte en eux et vis-à-vis du territoire parfois. Mmh. Mais par contre, on voit aussi que très rapidement, ils comprennent que la coopération est la seule solution pour s'en sortir. Mmh. Et que quand on est seul, on n'y arrivera pas, ou alors faudrait être un expert du milieu, et encore même pas. Donc rapidement, la coopération devient un lien, quand bien même on n'aime pas forcément les gens avec qui on est, on peut avoir des animosités, mais on comprend que sans les autres, on n'y arrivera pas. La grande différence avec des expériences deep time dans la grotte, en tout cas ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'il y a des émotions exacerbées, profondes, et que personne n'a de problème à les partager. Mm-hmm. On n'a plus peur d'exprimer peut-être ses doutes, ses faiblesses, mm-hmm. et à la fois ses joies et ses rires, que dans un milieu extrême où peut-être on a un peu plus peur de se faire mettre un peu en retrait du groupe ou autre. Et l'émotivité profonde, mais positive, que j'ai ressentie dans la grotte et que je vois les équipes ressentir, me paraît être extraordinairement nécessaire aujourd'hui que de savoir se réécouter et réécouter ses émotions.
Est-ce que les genres explosent, par exemple, Suzanne Henry? C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, dans la société qui est la nôtre, ces choses bien rangées, les hommes, les femmes, etc. Est-ce que là, au contraire, on a l'impression juste d'un mélange d'êtres humains, tout simplement, et cette différence-là est complètement effacée?
Moi, j'ai trouvé que c'était complètement effacé, qu'en fait, là, avec le recul, de me dire, en fait, j'ai tissé des liens d'amitié avec des gens qui n'ont pas du tout le même âge que moi, qui viennent pas du même endroit, on vient pas du même milieu social, on n'a pas du tout les mêmes pratiques. Et en fait, ça m'a profondément touchée et ça me donne beaucoup d'espoir de me dire qu'en fait, c'est possible. C'est possible qu'un homme et une femme puissent juste être amis, en fait. Et ça, enfin, moi, en tant que femme, ça m'a fait beaucoup de bien aussi.
Oui, ça peut être rassurant aussi, dans l'interaction, effectivement, ce qui se passe dans ces moments-là. Pierre-Henri est avec nous. Bonsoir, Pierre-Henri.
Bonsoir.
On vous écoute.
En fait, j'écoutais votre émission comme ça. Et j'ai fait deux transatlantiques il y a une dizaine d'années. Mm-hmm. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation qui ressemblait un peu à ce que vous décrivez. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a une forme de perte de repère. À chaque fois, on était quatre sur une coquille de noix, enfin un petit bateau, enfin un petit bateau, 15 mètres. On part pour plusieurs semaines en mer sans rien voir d'autre que des bateaux au loin et ainsi de suite, quoi. Donc, des habitudes qui changent, des rythmes de vie qui sont perpétuellement en train de changer. Alors, il y a une forme de charge mentale parce qu'il y a quand même des choses à faire, mais c'est une rupture avec le quotidien.
Et j'en vois bien ce que vous dites, Pierre-Henri, dans un bateau, en plus, où on a autour de soi un horizon qui est immense, mais en même temps, effectivement, quand vous dites quand même sur une coquille de noix, c'est souvent les questions qu'on pose, Christian Clos, aux marins qui reviennent du Vendée Globe, par exemple, parce que le temps est long, ça dure 3 mois en général. Et la première question qu'on pose, c'est la solitude et la peur de la solitude, en fait. Et la peur de l'immensité aussi, d'ailleurs.
On a un peu peur de la solitude de nos sociétés parce que on nous a montré que c'était peut-être un risque par rapport à la fatigue que ça pouvait créer ou à devenir fou. C'est un peu cette image du fou tout seul. Alors qu'en réalité, la solitude, elle peut être très très positive lorsqu'elle permet justement à l'esprit de vagabonder. Mais elle doit être néanmoins paramétrée dans le temps. Je crois vraiment qu'encore une fois, on a besoin des autres et qu'on peut partir quelques semaines sur un Vendée Globe, mais on a besoin derrière des autres. Et d'ailleurs, on le voit sur un Vendée Globe et sans aucune critique pour les marins. Ils sont en réalité très connectés à l'extérieur, à leur base arrière,
et à leur famille,
et leur famille. Ce qui a beaucoup changé par rapport à ça.
Et autant, dans tous les sens du terme d'ailleurs, ce qu'ils ont autour d'eux et le temps qu'ils mettront pour arriver. Je vous remercie chaleureusement tous les deux, vous aussi Sophie, pour ce téléphone sonne. Merci à tous pour vos nombreux appels. C'était la dernière de la saison. Les amis, on se retrouve à la rentrée. L'année était dense, mais elle a été belle. Merci donc à Philippe Lefébure, le rédacteur en chef, qui a gagné un truc important en basket. Ça nous a fait toute l'année, c'était pénible. Thomas Langlin et ses petits fun facts avant les disques, parce que lui, c'est le réalisateur. Les programmateurs s'appellent Pierre de Certaine, Amaury Baucher, qui chante beaucoup, et Nathalie Poitevin. Merci à nos stagiaires de cette année. Ryan a laissé un crocodile derrière lui d'ailleurs, merci beaucoup, avant de passer le relais à Simon. Avant, il y avait Julie qu'on embrasse. La technique ce soir, Florian Dorimini et Élise Christophe.